VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 temps universel du lundi 14 mai 2018. Abdourahmane Dia en direct de Washington. Voici les titres. Des dizaines de Palestiniens ont été tués alors que la nouvelle ambassade des États-Unis a ouvert ses portes à Jérusalem.
Le monde entier sait que Jérusalem est la capitale administrative de l'État d'Israël.
Les Palestiniens ne vont jamais cautionner cela.
Dossier complet dans cette édition. En République démocratique du Congo, une manifestation d'étudiants à Kinshasa contre la hausse des prix du transport a fait 8 blessés. Au Burundi, fin aujourd'hui de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 17 mai.
J'ai vu que le non a eu beaucoup de soutien malgré la peur, l'intimidation.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les États-Unis ont officiellement inauguré ce lundi à Jérusalem leur nouvelle ambassade en Israël, réalisant une promesse de campagne du président Donald Trump qui a de nouveau enflammé les passions et causé la mort de plus de 55 Palestiniens, d'au moins 55 Palestiniens. Le point avec John Linden.
Aujourd'hui, nous inaugurons officiellement l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Félicitations.
C'est par ces paroles prononcées à travers une vidéo que le président américain a officiellement annoncé l'ouverture à Jérusalem de la nouvelle ambassade des États-Unis en Israël. Il s'agit là de la réalisation d'une promesse du président Donald Trump. La cérémonie d'inauguration en elle-même s'est déroulée en présence de centaines de responsables israéliens et américains, dont Ivanka Trump et Jared Kushner, la fille et le gendre, mais aussi conseiller du président américain. Le président des États-Unis a toutefois assuré que son pays resterait pleinement engagé dans la recherche d'un accord de paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Cette inauguration a suscité la réprobation internationale et l'indignation palestinienne. À Gaza, des milliers de Palestiniens ont manifesté leur colère. Plusieurs dizaines ont par ailleurs été tués par des tirs israéliens. Saluée comme historique en Israël, cette inauguration est largement perçue comme un acte de défi envers la communauté internationale dans une période d'inquiétude pour la stabilité régionale.
Et comment les Israéliens, de manière générale, ont-ils accueilli le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem? Idriss Fall a posé la question à la journaliste Ora Zilberg à Jérusalem.
L'ouverture de cette ambassade à Jérusalem va un peu plus compliquer la situation.
L'Union européenne a mis en garde contre toute nouvelle escalade qui rendrait les perspectives de paix encore plus éloignées. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini,
On devrait plutôt écouter Ora Zilberg, elle est journaliste basée à Jérusalem. En attendant de la voir, on peut écouter Omar Nian, un Sénégalais qui a longtemps vécu en Israël. Voilà, donc on me dit que Omar Nian non plus n'est pas en place. On essaie d'écouter une nouvelle fois Ora Zilberg à Jérusalem, journaliste basée sur place. Non ? Voilà, donc... nous allons passer aux réactions internationales avec Yacouba Ouedraogo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Union européenne a mis en garde contre toute nouvelle escalade qui rendrait les perspectives de paix encore plus éloignées. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a rappelé que le transfert des ambassades ne pourra pas advenir avant que le statut de Jérusalem ne soit réglé. Cependant, la République tchèque, la Hongrie et la Roumanie ont récemment bloqué l'adoption d'une déclaration européenne critiquant le transfert de l'ambassade américaine. Le Royaume-Uni a appelé à la retenue, ajoutant que Londres reste engagé dans la solution des deux États avec Jérusalem comme capitale commune. Amnesty International a dénoncé une violation des droits de l'homme et des crimes de guerre à Gaza. Human Rights Watch, pour sa part, a condamné la politique israélienne consistant à ouvrir systématiquement le feu. Le Koweït envisage de demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur les événements à Gaza.
Voilà, on me dit maintenant que Ora Zilberg est prêt, on peut l'écouter.
Grande satisfaction, je crois que c'est la réaction qui résume le mieux. Un événement qui était évidemment annoncé depuis le mois de décembre dernier par le président Trump et attendu dans sa réalisation finalement, qui est venu relativement rapidement, toute proportion gardée, comme étant justement pour les Israéliens finalement une sorte de constat de réalité. Le monde entier sait que Jérusalem est la capitale administrative de l'État d'Israël. Ils attendaient qu'au moins un pays, et de préférence une grande puissance, reconnaissent aussi cette réalité. Donc c'est un peu l'atmosphère qui prévaut après cette inauguration.
Est-ce qu'il y a d'autres ambassades qui sont présentes à Jérusalem ?
Pas encore, mais justement, on peut dire que les États-Unis ont donné le coup d'envoi. 24 heures après, donc, ce sera au tour du Guatemala de rouvrir son ambassade à Jérusalem. Même chose pour le Paraguay, qui va aussi ouvrir sa représentation diplomatique à Jérusalem d'ici quelques jours.
Voilà, et pour une réaction en Afrique, Idriss Fall a joint à Dakar Oumar Nian, Sénégalais, qui a longtemps vécu en Israël.
L'ouverture de cette ambassade à Jérusalem va un peu plus compliquer la situation. Selon les résolutions onusiennes, ça ne devait pas se faire. Mais M. Trump l'a fait. Les Palestiniens ne vont jamais cautionner cela. Parce qu'eux, ils considèrent que, par exemple, Jérusalem pourrait être leur capitale. Comme les Israéliens aussi prétendent que Jérusalem pourrait être aussi leur capitale. Et l'ONU veut que Jérusalem conserve son statut international. Tout cela mis ensemble va un peu plus compliquer la situation. Et l'autre chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que les États-Unis, qui jouaient par exemple un rôle de médiation entre Israël et la Palestine, vont perdre par exemple beaucoup de leur crédibilité face aux Palestiniens. Donc le rôle de médiateur va poser beaucoup, beaucoup de problèmes. La première impression que ça donne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et on passe à l'actualité africaine à présent. La défense de l'ancien général congolais Jean-Marie Michel Mokoko, principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, a annoncé son intention de saisir les juridictions internationales contre sa condamnation à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Le point avec Bagassi Koura.
Selon ses avocats, l'ancien candidat à la présidentielle va faire un pourvoi en cassation de l'arrêt de la Cour criminelle et portera l'affaire devant les instances internationales, la Commission africaine des droits de l'homme, puis le groupe de travail des Nations unies contre la détention arbitraire. La défense du général Mokoko, âgé de 71 ans, a de nouveau dénoncé, je cite, « la parodie de justice qui a conduit à la condamnation à 20 ans de prison de son client ». Ex-chef d'état-major, ex-conseiller du président Denis Sassou Nguesso, le général Mokoko avait été arrêté en juin 2016. Il avait refusé de reconnaître la réélection du président Sassou Nguesso. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé la décision de la Cour criminelle de Brazzaville.
En République démocratique du Congo, le nombre de cas d'Ebola s'élève à 39. L'épidémie qui a été déclarée le 8 mai dernier a déjà fait 19 morts. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, des vaccins arriveront mercredi ou jeudi. Marie Benson.
39 cas d'Ebola ont été enregistrés et 19 morts entre le 4 avril et le 14 mai 2018. Selon le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, des vaccins vont être acheminés mercredi ou jeudi. Le directeur général de l'OMS qui s'est rendu en RDC a rencontré le président Joseph Kabila. Il a salué le fort leadership du gouvernement dans la réponse à l'épidémie et la bonne coordination avec les partenaires comme MSF et UNICEF. Depuis le 8 mai dernier, 393 personnes sont suivies par les services de santé pour avoir été en contact avec des victimes. 9 épidémies d'Ebola ont frappé la RDC depuis 1976. La dernière remonte à 2017, avait fait 4 morts. La fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus qui se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés.
Toujours en RDC, 8 personnes ont été blessées ce lundi dans des manifestations d'étudiants contre la hausse du prix des transports en commun à Kinshasa. Les autorités accusent la mission de l'ONU MONUSCO d'être derrière ces revendications. Au Sénégal, des peines allant de 5 ans de prison à la réclusion à perpétuité ont été requises contre de présumés djihadistes poursuivis pour actes de terrorisme et qui, selon l'accusation, voulaient installer des bases dans le sud du Sénégal pour déstabiliser la région. La peine maximale, les travaux forcés à perpétuité, a été requise à l'encontre de celui que le procureur Ali Sirigny Ndiaye a décrit comme l'idéologue du projet. Il s'agit de Martar Diohané et contre 10 autres. Il a requis 30 ans de prison contre un imam du centre du pays. Les plaidoiries sont prévues à partir de jeudi. Et en Guinée, l'opposition a repris ce lundi ses manifestations pour réclamer une révision des résultats des élections locales du 4 février en organisant une journée ville morte à Conakry. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Menelekiza.
La Commission économique pour l'Afrique veut faire progresser la mise en place du marché commun régional et faire passer le commerce intra-africain de 16% à 52% d'ici à 2022. La zone de libre-échange continentale devra devenir un puissant outil de stimulation de l'industrialisation, de la diversification économique et du développement du continent. Pour y arriver, l'action la plus importante et la plus urgente consiste à créer l'espace fiscal pour favoriser les investissements publics et privés et assurer la création des emplois. Nouvelle augmentation du portefeuille de la BAD au Cameroun estimée à 680 milliards de francs CFA. Actuellement, l'enveloppe culmine à environ 800 milliards de francs CFA. Ces financements permettront de conduire 32 projets principalement concentré dans le secteur des infrastructures et figure aussi des projets d'intégration comme la construction de la route Bamenda-Enugu reliant le Cameroun au Nigeria et le pont sur le Logone reliant le Cameroun au Tchad. Les concours de la BAD en faveur du Cameroun se sont multipliés par 4 en 4 ans. En Angola, le gouvernement veut privatiser totalement 74 entreprises publiques d'ici les prochaines années. Ce plan vise à long terme à réduire les interventions de l'État dans une économie fortement centralisée, les ports du pays, la compagnie aérienne nationale, la banque du commerce et l'industrie et la compagnie d'assurance ENSA devraient figurer sur la liste. Le président João Lourenço veut redonner un second souffle à une économie longtemps dominée par les influences du système soviétique.
À présent, la page des sports avec vous, Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Toko Ekambi, élu meilleur joueur africain de la Ligue 1 en France.
Et oui, l'attaquant camerounais d'Angers a remporté le prix Marc Vivien Foué du meilleur joueur africain du championnat de France. Il a dévancé le Tunisien de Rennes, Wabi Kazri, et le Burkinabé de Lyon, Bertrand Traoré. Karl Toko Ekambi a inscrit 17 buts cette saison en Ligue 1, contribuant largement au maintien d'Angers dans l'élite. Il est le premier camerounais et le premier joueur d'Angers à remporter ce prix. L'attaquant camerounais succède ainsi au milieu de terrain ivoirien Jean-Michel la série de l'OGC Nice sacrée l'année dernière.
Mondial 2018, la présélection de l'Égypte est connue.
Le sélectionneur des Pharaons, Hector Cooper, a dévoilé une préliste de 29 joueurs pour la préparation du Mondial 2018. À l'image de l'attaquant vedette Mohamed Salah, les cadres des Pharaons sont tous présents, avec le gardien vétéran Essam El Adari, 45 ans, les défenseurs centraux Ahmed Egazi et Ali Gabre et le milieu de terrain d'Arsenal, Mohamed El Neni, actuellement convalescent, mais qui devrait être rétabli à temps pour le Mondial. Déjà connu, le forfait du gardien Ahmed El Shenawi permet à Sherif Ekrami de signer son retour en sélection. L'Égypte débutera son regroupement le 22 mai.
Le Nigeria a aussi dévoilé sa playlist.
Le sélectionneur Gernot Rohr a retenu 30 joueurs pour la préparation. Pas de grosses surprises à signaler. Avec Obi Mikel, Victor Moses, Iwobi ou encore Moussa, tous les cadres sont là. On notera également la présence du Nantais, Awaziem et du meilleur buteur du championnat local, Junior Lokosa. Pour sa préparation, le Nigeria affrontera la RD Congo le 28 mai à Abuja, l'Angleterre à Wembley le 2 juin, puis la République tchèque le 6 juin en Autriche avant de s'envoler pour la Russie.
NBA pour finir, Boston a ramené Cleveland et LeBron James sur terre.
Cleveland et sa superstar LeBron James, facile vainqueur de Toronto au tour précédent, sont tombés de haut lors du premier match de la finale de la Conférence Est, perdu à Boston sur le score sans appel de 108 à 83 sur sa planète depuis le début des playoffs avec une moyenne de 34,3 points par match. King James a passé une bien mauvaise soirée à Boston.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Dernier jour de campagne pour le référendum constitutionnel au Burundi. Le parti présidentiel termine sa campagne pour le oui au cercle hippique de Bujumbura. L'UPRONA du premier vice-président de la République au nord de la capitale et le FNL à Gitega pour appeler à voter non. Le vote est prévu jeudi. Reportage de Christophe Kourounziza à Bujumbura.
Le parti présidentiel, à la tête duquel le secrétaire général Évariste Ndayishimiye, a terminé sa campagne au cercle de Bujumbura. Une foule nombreuse des militants dans leur tenue de l'aigle battait campagne pour le oui. De même que les sympathisants du parti de l'indépendance UPRONA, qui s'étaient déplacés vers le quartier de Kamenge au nord de Bujumbura, derrière le premier vice-président Gaston Sindimo. Toutes ces deux formations politiques vantent les mérites du changement de la constitution qui avait été adopté en 2005 après des années de négociations. Ce jeune homme estime que le oui va gagner.
Apparemment, je vois qu'il y a le oui qui va passer, sincèrement, parce que je vois que il y a aussi le non qui n'est pas moindre, mais je crois que sûrement avec ce qu'on a préparé déjà, le oui va passer. Quoique il y aurait toujours des frustrations, comme au match de football, quand il y a des qui s'affrontent, il y a l'adversaire, il y a celui qui gagne, il y a celui qui perd. Donc il y a toujours un esprit de contestation, de frustration qui peut apparaître.
Agathon Gwasa, quant à lui, était au centre du Burundi, dans la province de Gitega, où ses sympathisants avaient répondu pour le non de la révision constitutionnelle. Ce trentenaire affirme qu'il a peur.
Ma réaction, c'est une réaction de crainte. Je crains que le comptage peut être truqué, parce que j'ai vu que le non a eu beaucoup de soutien. Malgré la peur, l'intimidation par les jeunes du parti au pouvoir. Oui, j'ai peur.
Cette femme affirme que le oui va l'emporter.
Si on vote non ou oui, le oui sera gagné à cause du parti politique qui est au pouvoir. On voit qu'il n'y a pas de démocratie au Burundi. C'est pourquoi, si on vote non, le oui sera gagné.
Pour le parti Front National de Libération, qui ne sera plus une coalition d'indépendants après l'adoption de la nouvelle constitution, la réforme constitutionnelle enterre définitivement les accords de paix et de réconciliation d'Arusha signés en 2000. Rappelons que plus de 26 personnes ont été tuées par un groupe armé vendredi dernier et 7 personnes blessées, selon le ministre de la Sécurité publique, Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Congo, 23 membres du mouvement citoyen Ras-le-Bol ont été arrêtés le 7 mai à Pointe-Noire et Brazzaville alors qu'ils menaient une campagne pour la libération des prisonniers politiques. Vendredi, le général Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à 20 ans de prison. Amnesty International exige la libération des militants. Raissa Girondin a joint Balkissa Idé Sido d'Amnesty International.
Amnesty International et d'autres organisations de la société civile, notamment la campagne Tournons la page et Frontline Defenders, demandent aux autorités congolaises de libérer immédiatement et sans condition les 25 activistes qui ont été arbitrairement arrêtés. Donc ces activistes n'auraient jamais dû être arrêtés déjà, et cette détention, nous la qualifions d'arbitraire parce qu'ils n'ont fait que manifester leur droit à la liberté de manifester pacifiquement.
Comment s'organise leur défense ?
Les avocats sont au pied d'œuvre, les organisations de la société civile aussi sont en train de faire du plaidoyer en demandant aux autorités de les libérer, en demandant aussi à la communauté internationale qui malheureusement est restée assez silencieuse sur cette situation de droits humains qui perdure au Congo-Brazzaville.
Au-delà des activistes, il y a au moins 10 leaders et membres de partis d'opposition qui sont détenus pour incitation aux troubles à l'ordre public. Pour leur cas, qu'est-ce que Amnesty International peut faire ?
Cela fait déjà bien avant le référendum, pendant les élections présidentielles. Il y a eu plusieurs vagues d'arrestations. Il y a des dizaines de personnes qui couprissent en prison jusqu'à présent. Et nous avons vraiment peur que ces activistes-là, leur cas ne soit négligé, qu'ils ne restent en fait en prison pendant longtemps en attendant qu'il y ait un procès. Et nous avons peur que ce ne soit le cas pour ces activistes-là. Donc nous demandons vraiment aux autorités congolaises d'intervenir et de faire en sorte que normalement ils doivent être libérés sans condition parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Si les autorités veulent en fait continuer dans cette logique-là, qu'ils les transmettent juste devant un tribunal civil qui pourra rapidement les juger afin qu'ils puissent savoir déjà quel est leur sort et que nous puissions nous organiser pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du plaidoyer auprès des personnes indiquées pour qu'ils soient libérés.
Connaît-on leurs conditions de détention ?
Non, ils sont détenus au niveau de la Direction générale de la surveillance du territoire qui, nous savons, n'est pas accessible à tout le monde. Donc, très souvent, l'accès est limité. Mais de manière générale, on sait que les conditions de détention au Congo-Brazzaville ne sont pas bien, donc ce sont des conditions assez déplorables.
Quel est aujourd'hui votre appel à la communauté internationale ?
Nous constatons qu'elle est assez inerte quand il s'agit de certains pays, dont le Congo-Brazzaville. Donc, il est impératif que la communauté internationale intervienne. Et la communauté internationale a le devoir d'intervenir parce qu'elle a également des obligations en ce qui concerne le respect des droits humains.
C'était Balkissa Idé Sido, jointe à Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une zone économique spéciale entre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est ce qu'ont lancé aujourd'hui les premiers ministres de ces trois pays à Sikasso, au Mali. Cette zone que certains appellent le triangle du Balafon couvre la zone entre Korogo, Bobo-Dioulasso et Sikasso. Elle a pour but d'améliorer la coopération économique dans la région. Bagassi Koura a joint le maire de Bobo-Dioulasso, Brahima Sanou, qui, pour l'occasion, s'est rendu à Sikasso.
Cette zone déjà que nous appelons Escabo, Espacicasso, Korogo, Bobo, elle faut dire que c'est une zone économique et culturelle depuis très longtemps. Et depuis un certain temps, nous, la collectivité territoriale, nous avions essayé de nous rapprocher dans le cadre de la coopération décentralisée avec l'appui de certains partenaires, peut-être les mois. En tout cas, les échanges à ces frontières-là, en se basant sur un nombre d'activités dans cet espace-là, en essayant de nous appliquer et nous appuyer sur le dispositif de l'Union monétaire africaine.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que ça veut dire que les démarches vont être plus allégées dans cette partie de ces pays-là que dans le reste de ces pays ?
Non, en fait, ce qui vient de se lancer aujourd'hui, nous estimons que, en fait, ça n'est pas nouveau pour nous, les collectivités territoriales. Nous allons dire tout simplement, ça, c'est un accord au niveau des trois États, au niveau du gouvernement. Alors, depuis très longtemps, bien sûr, dans le cadre de l'UMOA, il est dit que, en principe, ça devrait faciliter la circulation, la libre circulation des personnes et des biens. Mais malheureusement, nous, les collectivités, au niveau de la base, nous avions senti que ce n'était pas réel. Du reste, c'est ça que nous sommes impliqués en nous approchant à la coopération décentralisée, comme je l'ai dit, même en créant, avant ça, nous avions créé ce que nous avons appelé l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, qui regroupe des collectivités du Burkina, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est un lancement. Nous espérons que ça va être un engagement réel et c'est pas pour nous accompagner. Sinon, c'est dire que, bon, pour nous, ce n'est vraiment pas nouveau.
Oui, ce n'est pas nouveau, mais s'il y a un commerçant qui est à Bobo-Dioulasso qui suit tout ça, qu'est-ce qui va changer dans sa vie s'il doit se rendre à Sikasso et à Korogo ?
Alors, c'est quoi ? Mettre en place des infrastructures structurantes, c'est-à-dire qui vont venir en appui à la production, en appui à l'économie locale, la réalisation de ces infrastructures, qui, par exemple, les routes, les infrastructures telles que la régionalisation du secteur de l'aéroport de Bobo, peut-être, de Sikasso, je sais. Alors, ça va permettre aux commerçants, aux entreprises de bénéficier d'un cadre propice beaucoup de moyens en appui à la production et à la commercialisation pour pouvoir mieux se mouvoir, de pouvoir mieux exploiter leur activité. C'est comme ça que je vois ça.
C'était Brahima Sanou, le maire de Bobo Dioulasso au Burkina Faso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissin. À la console, Voitex Orniak. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Au moins 16 personnes ont été tuées dans l'attaque du 1er mai à Notre-Dame de Fatima, église catholique de la capitale centrafricaine, Bangui. Elle était le fait d'un groupe criminel dénommé Force, opérant dans le quartier majoritairement musulman du PK5. Le curé de la paroisse, le père Tunguma Lebaba, figurait parmi les morts. Une violente foule a ensuite attaqué une mosquée à La Kunga, dans la banlieue de Bangui. L'ambassade américaine en République centrafricaine a publié une déclaration exprimant l'horreur et la tristesse au sujet de l'attaque insensée de l'église de Fatima et des représailles subséquentes contre la mosquée de La Kunga. Nous pleurons les décès, de même que les cas de blessures résultant de cet acte criminel, a fait savoir l'ambassade. Nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles. Les individus à l'origine de cet acte sont des lâches. Ils ne représentent ni les musulmans, ni les chrétiens. Ils ne représentent pas les centrafricains. Ils cherchent seulement à provoquer une sanglante réaction. Les États-Unis exhortent tous les citoyens de la République centrafricaine à ne pas tomber dans le piège de la violence et de la revanche. Cela doit cesser. Les États-Unis condamnent ces actes sans réserve et nous nous tenons aux côtés de tous les centrafricains et pris de paix. Les États-Unis comprennent tout à fait la profonde colère que ressentent les gens actuellement, mais nous implorons tous les citoyens à renoncer à la violence et à regagner leur demeure pour éviter la poursuite du bain de sang. Ce cycle doit cesser pour le bien des enfants du pays et de tout son peuple.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.